J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Card Market. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic c'est chic pour la deuxième partie du Fait aux Fictions sur les cavernes oubliées d'Ixalan, un récit assez particulier hein, qui en plus de nous replonger dans la guerre intestine entre les quatre factions du plan, commence aussi à tisser le fil rouge du grand arc narratif des percées de présages.
Tout à fait Alvar, avec en plus de ça, une formidable mise en avant de la mythologie du plan qui n'avait pas vraiment été défrichée lors du précédent passage et que tu as brillamment exposé dans un double fait aux fictions que l'on vous recommande chaudement, que vous suiviez le lore en temps habituel ou pas, ce diptyque a l'avantage d'être totalement indépendant.
Trêve de flagornerie et souk ferme, Moussaillon, nous redescendons sous terre pour retrouver Quintorius, notre compère arpenteur Loxodon.
Descente en rappel et c'est parti!
En attendant Pashona, la grande chamane Ondine, Quintorius est hanté par leur échange avec Waïta. Il se sent dépassé par les événements, pas assez préparé. Et surtout, qui a l'apanage de raconter les histoires? N'a-t-il pas été lui-même choqué par la façon dont sont parfois décrits les Loxodons sur son plan? N'avait-on pas voulu l'empêcher de travailler sur le site perdu de Xantafar, parce qu'il était trop impliqué? Où se trouve la juste mesure? Ces réflexions sont interrompues par Nick Anzil, qui les emmène jusqu'à la Porte Dorée, auprès de leur leader. Un frisson parcourt les membres de l'Empire du Soleil, des vampires, certainement de la Légion du Crépuscule de Torezon, sont présents, eux aussi. Après les échanges d'usage entre Watli et Pashona, elle interroge la présence ici, devant Matsalantli, des différentes troupes, humains comme vampires, et de Quintorius, étranger du plan.
Si l'Empire du Soleil répond en toute franchise, les buveurs de sang, eux, se refusent à le faire. La tension monte très vite entre les trois factions, jusqu'à ce que Huatli éveille l'intérêt de Pashona en affirmant qu'ils peuvent déverrouiller la Grande Porte grâce au savoir de Quintorius. Des contestations fusent de toutes parts, mais la modeleuse de l'onde laisse la poétesse guerrière opérer. Le langage est différent des portes précédentes, et nul système de tablette amovible cette fois. Face à cet obstacle, Quint convoque à nouveau le fantôme Abuelo, grâce à son poncho. Ce dernier, utilisant le quipou de sa défunte femme récupérée avec ses affaires, débloque la porte qui se charge alors d'une lueur magique rosée. Elle s'ouvre sur un tunnel terminé par un cercle de pierre qui surplombe une large vallée souterraine, illuminée par une sphère d'argent. Des gens, observant leur arrivée, courent prévenir Anim Pakal que le sceau a été levé.
Alors que Kellan s'extasie quand ils franchissent la porte, Amalia entend une fois de plus la voix qui l'invite à la rejoindre. Mais la voix est plus profonde, plus caverneuse, plus proche. Celle-ci s'élève encore lorsque, de la pyramide adjacente, surgissent des gens dans la même tenue que l'esprit nommé Abuelo. Parmi cette peuplade, des humains, des esprits, des créatures anthropomorphes. Très loin, au-dessus de leur tête, des guerriers à dos de chauve-souris géantes se rapprochent. Et la voix s'intensifie encore dans l'esprit de la vampire. Alors que la dénommée Anim Pakal, meneuse des mille lunes, approche, s'interrogeant sur la sûreté du monde du dehors.
L'écho Abuelo balaie ses espoirs en lui apprenant que le Myco-Tyran est plus puissant que jamais, ce qui signifie qu'en ouvrant la porte, ils ont sûrement amené la ruine sur ce lieu. Au-delà de la détresse de cette situation, il n'y a plus beaucoup de doute sur le fait que l'Empire du Soleil et la communauté d'Anim Pakal descendent tous deux du peuple des Commons, dont une partie avait quitté la vallée du Chimil pour découvrir l'extérieur. La convivialité teintée de militarisme entre Anim Pakal et Inti assombrit l'humeur de Huatli, avant que leur hôte en revienne à Vito et sa troupe. Malgré la courtoisie de Bartholomé, lorsqu'Anim Pakal apprend qu'ils sont des vampires et donc des serviteurs du grand dieu traître, elle les envoie immédiatement en prison. « Encore !» se dit Kellan, tandis que Vito jubile, convaincu que tout se passe, suivant la volonté d'Aklazots.
Le reste des convives est mené dans une grande salle de réception, où ils rencontrent la grande oratrice Akal Pakal, à la tenue très richement ornementée. Lors des présentations, la dissension entre Watli et Inti se cristallise. Le héros de l'Empereur du Soleil réaffirme sa volonté d'éradiquer les vampires, profitant de la faiblesse occurée par le combat contre les Phyrexions. Alors que Watli, dans la continuité de la collaboration qu'ils ont eue face à l'envahisseur, veut travailler à la reconstruction et à une paix durable. Waïta, qui a entendu ce débat mille fois, reporte son attention sur Quintorius et Abuelo, qui discutent à part sur le lien des fantômes et des objets leur ayant appartenu. Waïta regarde cependant toujours les délibérations dont elle s'est écartée, se demandant s'ils se dirigent vers une nouvelle guerre. Puis leur hôte leur propose un tour à dos de chauve-souris pour découvrir de plus près l'artefact légendaire qui les surplombe, Chimil.
Dans leur geôle, les vampires sont séparés par petits groupes. Bartholomé s'est arrangé pour être enfermé avec Kélan et Amalia. Tandis qu'ils débattent de la nature des vampires, des injonctions de leur église et de justice, à travers les murs, ils entendent Vito, plus fanatique que jamais. Ils proclament que leur salut est proche, qu'il a parfaitement suivi les instructions du vénérable Tarian. Leur leader incarne justement leur débat sur les convictions non partagées au sein d'une même église, qui prône pourtant un idéal ultime. Ils reviennent à Kélan, qui leur apprend être en quête de son père, pour comprendre qui il est. Le sage Bartholomé lui confie que quoi qu'il advienne de la rencontre avec cet homme, au terme du voyage, il en saura bien plus sur lui-même qu'à son départ.
Une brume magique enveloppe le bâtiment, des cris étouffés retentissent tandis que Vito appelle ses comparses à le suivre. Bartholomé charge Amalia de fuir et de tout conter à la reine Miralda si les choses tournent mal. Vito et Clavileño détruisent la porte de leur cellule, réclamant Kélan comme sacrifice à Aklazots. La vampire bibliothécaire utilise sa cartomancie pour s'enfuir, tandis que son mentor se jette sur Vito. Et lorsqu'ils entendent la nuque de Bartholomé craquer horriblement, Amalia fait disparaître d'un coup le mur derrière eux. Et avec Kélan, ils s'enfuient à toutes jambes, la peur au ventre.
Malcolm plane vers le cœur des cavernes d'Ixalan, tandis que Bray descend prudemment de son côté en rappel, suivant les fungus luminescents, leurs masques solidement arrimés sur leur visage, pour éviter d'ingérer des spores. Ils finissent par dépasser le monte-charge, endommagé mais fonctionnel. Mais les cadavres de leurs compagnons pirates ne sont bizarrement pas là. Leur descente infernale s'achève sur un tunnel trop propre pour être naturel, infesté de fungus, évidemment. Ils débouchent sur une large caverne au plafond très haut, permettant à Malcolm de retrouver la liberté de voler. D'une impressionnante forêt fongique, nos deux compères voient bientôt émerger des survivants, menés par Xavier Sall, le maire de Downton.
La joie est de courte durée, car tous les arrivants sont couverts de mycoïdes. Et quand Xavier prend la parole, il a la voix sans identité qu'ils ont déjà entendue précédemment chez leurs compères. Compagnons infectés, employant un « nous » qui en dit long sur cette contamination généralisée. Derrière la troupe, une figure gigantesque est soudainement illuminée par les fungus, et Malcolm et Bray rencontrent en chair et en spore le myco-tyran. Ce dernier leur apprend que chaque personne aspirant ses spores devient une part de lui-même, et ainsi il apprend par ce biais tout des nouveaux arrivants. Le myco-tyran sait donc très bien qui ils sont. C'est donc Malcolm qui émet ses interrogations, lui demandant ce que peut vouloir un être pouvant prendre possession de toute créature vivante sur son passage. Malheureusement, pour eux, la réponse est très simple. Il veut tout.
À cette réponse, le pirate sirène se rend compte qu'ils sont maintenant encerclés par ses anciens frères d'armes et d'autres vassaux fongiques du myco-tyran. Leur entreprise de sauvetage a échoué. Ils sont tous morts, même si le mycoïde géant parle uniquement de changement. L'unité intègre la pluralité et tout ne devient qu'un. Et cela depuis des siècles, car le myco-tyran existait déjà du temps des Oltecs et de leurs dieux. Il a vu l'évolution des Common Winak, s'est heurté par la suite avec les Malamètes ou les Gobelins des Profondeurs. Malcolm tente malgré tout un échange plein de discernement avec l'entité champignon, tandis que Bray lui propose dans un râle des pierres précieuses ou de l'or. Mais le myco-tyran veut plus que ça. Ayant réussi à entraver Chimil il y a bien des années déjà, celui-ci ne l'intéresse plus. Il veut
prendre le soleil de la surface.
Malcolm déglutit. Combien de temps survivrait le plan si cette créature arrivait à l'air libre ?
En échangeant avec l'oratrice Akal, Quint parvient à se mettre au clair sur les raisons qui portent son âme d'archéologue. Trouver les histoires perdues et les partager pour ne pas qu'elles sombrent dans l'oubli. Alors qu'ils envisagent une correspondance de savoir entre l'histoire d'Ixalan et celle d'Arcavios, Watley, Waïta et Inti redescendent de leur vol à dos de chauve-souris jusqu'à la queue de Cosmium s'échappant d'un anneau cassé de Chimil. Watley a d'ailleurs récupéré un fragment, qui pourrait constituer un bel ornement de collier. Mais les réjouissances sont de courte durée quand Waïta aperçoit la brume macabre sur les prisons de l'autre côté de la vallée. Anim Pakal, accompagné d'un gnome automate de combat, arrive peu de temps après, escortant Amalia et Kélan qui leur expliquent qu'ils ne s'enfuient pas, mais que Vito est à la recherche du moyen de libérer Aklazots, le dieu traître. Cette nouvelle est d'autant plus inquiétante que parmi les Oltecs, certains révèrent secrètement ce dieu et seront prêts à aider pour le libérer.
face aux ennemis qui se rapprochent, Malcolm échafaude des plans pour s'envoler hors d'atteinte avec Bray. En se concentrant, il sent un courant d'air frais marin. Ici, sous terre, à l'énième demande de Big Boom de Bray, Malcolm préfère encore une issue moins explosive, sa voix. Il se met à chanter, attrape son compagnon sous le bras lorsque les ennemis s'immobilisent en l'entendant et part en direction du tunnel menant à l'eau. Quand ils sont trop loin pour que son chant soit effectif, ils se mettent à courir, tandis que les fungus sur les murs se tendent comme des griffes sur leur passage. Au bout du tunnel, un précipice surplombant un semblant d'océan et une ville peuplée par les héros de Londres. Les deux compères s'y précipitent, poursuivis par la horde d'infectés composée des disparus de Tonton, de leurs anciens compagnons, de dinosaures ou de chats anthropomorphes, tous dans cet état de mort vivante fongique. Les ondins réagissent avec efficacité à cette soudaine invasion. La conductrice des courants Nikanzil, recueillant les origines de cette attaque auprès des deux pirates, les charge de franchir Mazal Ankli pour prévenir Huatli et ses comparses que la menace qu'ils redoutaient progresse déjà au seuil du noyau. La sirène et le gobelin s'exécutent, se frayant à grand-peine un chemin sur le champ de bataille.
Dans la brume, des serviteurs secrets d'Aklazotz de la ville Holtec viennent à la rencontre de Vito, offrant leur service aux vampires fanatiques pour permettre la libération de leur dieu noir. Il est plus extatique que jamais d'être l'outil dans la main de son obsession. Il suit ses nouveaux alliés à travers un marais fétide, puis dans un tunnel au fond duquel se tient une étrange porte. On lui tend ensuite un morceau de cosmium. Ce dernier permet d'ouvrir le sanctuaire, en plus de moult sacrifices. Une nuée de chauves-souris est libérée. Une sensation de gel mêlé de brûlure manque de faire tomber Vito, qui tient bon avant de pénétrer dans le temple maudit. Il rencontre enfin son dieu, diminué, enchaîné mais plus pour longtemps. Le cinquième âge touche à sa fin et la lumière de Chimil sera voilée à nouveau. Libéré de ses entraves, Aklazotz accorde sa bénédiction à Vito et à ses troupes. Plantant ses dents dans leur nuque et leur torse tour à tour, il leur insuffle un pouvoir nouveau qui se déverse dans la douleur. Les corps de ses fidèles craquent avant de se transformer à l'image de leur maître. Ils portent toujours leur costume et armure, mais revêtent désormais des formes plus bestiales, des griffes à la place des mains, de vraies ailes désormais et des canines beaucoup plus longues. Ils suivent tous le dieu chauve-souris lorsqu'ils traversent les étendues vertes du noyau en quelques battements d'ailes, jusqu'à atterrir sur Chimil. Il envoile magiquement la structure, plongeant progressivement les landes alentour dans l'obscurité. Un nouvel âge vient de débuter.
L'aventurière Waïta est la première à réagir quand la lumière du soleil diminue. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre, autour du dieu chauve-souris, des vampires corrompus par leur divinité libérée. Malgré la version que lui ont laissé les combats contre les Phyrexians, Waïta sait qu'elle devra désormais se battre jusqu'au bout pour ne pas que ses ennemis de toujours volent la paix de leur plan. Après un poème d'encouragement de Huatli, les troupes de l'Empire du Soleil affrontent les vampires démoniaques qui fondent sur leurs rangs. Le sang des deux camps se mélange déjà sur le champ de bataille quand Waïta aperçoit d'un œil une forme volante faire irruption par la grande porte, comme eux quelque temps auparavant. Un être volant ressemblant moins à un vampire qu'à une sirène.
Talonné par les hordes du Myco-Tyran, Malcolm peine à analyser l'ensemble des informations qui lui parviennent de toutes parts. Sur ce niveau, à l'étrange soleil éclipsé, l'air chargé de magie, où des membres de l'Empire du Soleil affrontent des chauves-souris mutantes portant les armures de la Légion du Crépuscule. Quand il aperçoit une tête connue, l'efficace Waïta, avec qui il a parcouru les mers durant un an, il file vers elle pour comprendre un peu mieux la situation. Il rencontre dans la foulée Amalia, Kellan, Quintorius et l'esprit Abuelo. Le vampire Vito, lui, exulte dans la fureur du combat, ayant la sensation d'écrire l'histoire. Lorsqu'il voit le fidèle Clavileño aux prises avec deux guerriers plutôt puissants, il rentre dans la mêlée et éloigne le sénéchal Inti de son compagnon, qui cependant prend très rapidement le dessus dans leur affrontement. Dans ce combat épique, le cousin de Huatli ne remarque pourtant pas l'ombre de Clavileño qui s'est glissée derrière lui, avant d'un coup sec de lui briser la nuque. La poétesse guerrière hurle, tandis que Vito choisit d'en faire sa nouvelle proie.
Mais Huatli se reprend vite et son épée est ferme quand le vampire mutant s'en prend à elle. Vito est aussi bavard qu'elle est silencieuse. Elle ne répond pas à ses provocations, mais note mentalement toutes les informations sur Torezon qu'il lui fournit dans sa volubilité. Il prend le dessus dans le combat, mais bientôt, elle n'est plus seule. Un ptérodactyle vient contester le contrôle des airs aux vampires arrogants, et d'autres puissants dinosaures déferle alors dans les cieux et également sur terre, convoquée par l'extraordinaire guerrière poétesse dont la lance empale bien vite Vito. De son côté, Caparocti exerce sa propre vengeance, pourfendant également Clavileneu. Les terribles reptiles venus en renfort se dispersent alors pour aider tous ceux qui continuent de combattre les vampires afin de faire revenir la lumière du soleil intérieur.
Une fois le point fait sur le tyran fongique et le dieu sanguinaire auprès de l'oratrice Akal, Quintorius entreprend d'invoquer la défunte compagne du fantôme Abuelo grâce à son quipu. La dénommée Abuela n'est pas le seul renfort. L'oratrice Pacal convoque les jardiniers, une troupe de guerriers qui, depuis leur retraite derrière Mazzalantli, ont été formés pour lutter contre le myco-tyran en cas de percée invasive. Ces derniers portent d'ailleurs les objets permettant d'invoquer d'autres fantômes. Ces esprits, mis au fait des événements par l'oratrice, assurent en retour le soutien des dieux. Les troupes s'organisent, puis Malcolm, depuis les airs, leur indique la route.
La magie d'Amalia se révèle une fois de plus terriblement efficace. Les esprits, comme une avant-garde, se glissent à l'intérieur des fungus et les font disparaître dans de la fumée bleue, comme consumée de l'intérieur. Puis, les échos passent à leur cible suivante. De leur côté, les jardiniers utilisent des sorts qui réduisent en cendres les champignons hostiles, de plus en plus nombreux et de plus en plus coriaces, menés par le myco-tyran lui-même. Voyant Bray fixer le monstre avec son air de mathématicien, Malcolm interroge ses ambitions. Le singe lui propose un ultime Big Boom qui reçoit enfin l'assentiment de la sirène.
Il emporte son compagnon par la voie des airs, évitant de justesse les projectiles ennemis jusqu'à ce que leur explosif touche le monstre, arrachant un immense cri à l'ensemble des fungus. Certains commençant ainsi à s'effondrer. Mais alors que la bataille semble s'éclaircir, que l'on voit les rayons de chimie réapparaître, une immense détonation provient cette fois du temple d'Aklazos. Des éclairs rouges zèbrent le ciel encore sombre, alors que le dieu chauve-souris semble avoir atteint son sombre sanctuaire.
Kellan et Amalia accourent vers ce lieu, mais la jeune vampire redoute ce qui les y attend. Les assauts des démons vampiriques ébranlent en plus considérablement sa foi, mais sur place, ils découvrent que le dieu traître s'est finalement enfuie avec ses ouailles. Après un échange houleux avec un prisonnier ennemi, elle s'effondre, consciente qu'elle a été élevée dans le mensonge. Son dieu n'est ni bon ni généreux. Et suite à cette révélation, elle ne sait plus que faire. Face à cette perte de repère, le bon Kellan tente de la réconforter et lui propose un nouveau départ, un peu plus tard, quand ils auront retrouvé la lumière du monde extérieur.
Avec la fuite du dieu vampire et l'effondrement des troupes mycoïdes, le calme revient peu à peu dans le noyau, à mesure que les différentes troupes partent. Waïta, elle, observe les dignitaires de l'Empire du Soleil venir à la rencontre de leur cousin Holtec, avec la même distance que Watley. Dans ce temps de festin et de célébration, Caparocti et la guerrière poétesse s'affrontent sur la tournure de la suite, guerre ouverte contre Thorezon d'un côté et traque sans relâche d'Aklazots de l'autre. À la mention de son défunt cousin Inti, qui partageait pourtant les convictions inverses, Watley se contient de faire la tête au carré à son adversaire et quitte la pièce, bientôt rejointe par Waïta. Malgré le réconfort d'un échange entre sœurs de quête et d'épreuve, elles constatent tous deux douloureusement que leur empire est peut-être lui aussi aux portes d'une guerre civile.
Quintorius, de son côté, s'aventure jusqu'à une ruine un peu reculée du noyau. Située à flanc de montagne, on y trouve un imposant débris qui avait emprisonné Chimil durant la guerre de la nuit. Ce sombre épisode de l'histoire des Oltecs avait vu Chimil occulté, non pas par Aklazots, mais par l'Empire de la Pièce. Des géants venus d'un autre monde à bord d'imposants vaisseaux. Le voyage jusque là-bas est ardu pour Quint, mais la récompense est immédiate, car il y trouve effectivement des traces de la mystérieuse civilisation. Il entreprend d'explorer les environs, délaissés par les Oltecs depuis, sûrement par superstition. Il cartographie les lieux au fil de sa progression, étant certain d'être à présent dans un vestige de l'architecture Fomori. Hormis quelques meubles disproportionnés, tout y est vide et métallique. Mais soudain, un réservoir intact finit par attirer son attention. En plaquant son visage contre la paroi, pour mieux voir à l'intérieur, il entend un craquement, avant d'y distinguer une immense créature à la peau grise qu'il n'aperçoit même pas la tête. Une immense créature dont les doigts bougent lentement, s'étirent avant de se refermer en un point. Quint est pris de panique et rebrousse chemin. Vite, très vite!
Malcolm et Bray font leur au revoir à Amalia et Kellan, qu'ils laissent sur une île. Kellan avait la sensation qu'il fallait suivre cette direction pour enclencher leur prochain voyage. Et Amalia, quelque peu déboussolée par les événements, si ce n'est carrément orpheline, le suit. Ce nouveau duo arrive à dénicher une percée de présages, comme le demi-fée l'avait pressenti. Il la met en garde une dernière fois sur le fait de quitter son monde natal, pour un saut vers l'inconnu. Mais elle est prête, même s'il insiste encore une fois sur les dangers qui les attendent, peut-être de l'autre côté. Amalia lui demande ce qui pourrait bien être pire que les gobelins des cavernes, et les hommes jaguars. Kellan lui répond, une oie géante, peut-être. Et ils avancent ensemble dans le portail.
Après les avoir laissés, notre sirène pirate est bien content de retrouver l'air libre et la possibilité de voler pleinement au-dessus des mers. Mais le bonheur est de courte durée pour Malcolm et son ami gobelin. Le port de la coalition, duquel ils avaient mené leur expédition jusqu'à Dunton, est devenu aussi totalement déserté. Des champignons à la luisance verte familière ont poussé dans chaque recoin. Il n'y a aucun navire à quai. Cela peut être bon signe, ses compagnons auraient pu réussir à s'enfuir avant l'infestation. Cependant, il sait pertinemment que si au moins un pirate contaminé a pris la mer, c'est la catastrophe. Leur mission avec Bray ne touche en fait pas du tout à sa fin.
Sur mer, un bateau se dirigeant droit vers Torrezon, le continent de la monarchie vampirique de la Légion du Crépuscule. Et dans la cale de ce bateau, non pas des pirates ou des fungus, mais des humains, prêts à être sacrifiés en offrande à un dieu ressuscité. Aklazotz attend patiemment dans l'obscurité du navire. Il attend patiemment d'étendre ses ailes sur Torrezon. Il attend patiemment de rencontrer Vona à la bouchère. Vito lui avait dit que cette puissante vampire partageait son fanatisme, et il la placerait à sa droite, tandis qu'il assurerait sa domination sur le plan, avant de revenir oblitérer Chibil plus tard. D'ici là, il se délecte des cris des humains désespérés que ses dévots lui offrent en repas sacrificiel. Une douce musique qu'il aimerait presque ne pas voir s'arrêter. Mais tant pis, il a bien trop soif de sang.
Et voilà pour l'histoire des cavernes oubliées d'Ixalan. Malcolm a bien raison de s'inquiéter car le Myco-Tyran n'a besoin que d'un corps pour faire perdurer son esprit et il a bel et bien déferlé vers la surface d'Ixalan.
Un futur retour sur ce plan promet, hein, car Aklazotz serait une menace tout aussi terrible s'il prend la tête des légions d'Elenda, une leader bien plus tempérée que certains de ses confrères Vona en tête. Je vois bien un troisième bloc Ixalan enfin centré sur leur continent, du coup.
Et oui, surtout si l'Empire du Soleil joue les belliqueux et compte profiter d'une guerre intestine pour aller casser du vampire à domicile. On peut dire qu'Ixalan va porter longtemps les conséquences de la guerre et que cette narration marque un petit renouveau dans la façon de Wizard d'explorer le lore.
Tout à fait, Quentin. Déjà, les chapitres étaient 6 au lieu de 5, à cause certainement du grand nombre de points de vue exposés. Cette conclusion nous sort de la formule classique, hein. Tout est bien qui finit bien, avec des nouvelles du grand méchant à la toute fin. On suivait ici plein d'itinéraires en cours, et bien qu'on les ait un peu laissés en pleine trajectoire, cette façon de raconter les histoires est un peu plus immersive, nous trouvons.
Effectivement, car le seul que nous allons retrouver sur le plan de Ravnica, c'est Kellan, qui a été très secondaire dans cette histoire. Les événements de meurtre au manoir Karloff ont-ils lieu juste après ceux d'Ixalan ? Quelques semaines, quelques mois après, Kellan y a l'air plus d'un jeune homme que d'un garçon, désormais sur l'illustration déjà révélée. Amalia n'était pas à ses côtés dans le chapitre d'introduction du set, mais tout reste possible.
Et enfin, Quint, hein, qui semble suivre la piste des potentiels grands méchants de cet arc narratif, l'Empire de la Pièce, aussi nommé Fomori. Ce nom n'est pas inconnu des anciens joueurs, puisqu'avec les tout premiers decks commandeurs préconstruits, nous avions eu Ruan, guerrier géant et aveugle, venu du plan Dyr, un monde plus tardisé à travers une carte Plane Chase.
Et même avant ça, en vision de l'avenir, on avait aperçu une créature issue de cette civilisation, le nomade Fomori. A voir s'ils seront plus menaçants qu'une 4-4 pour 5, mais comme vous avez pu l'entendre dans le grand mythe d'Ixalan, ils ont l'air d'avoir été des antagonistes dotés d'une technologie évoluée et capables de voyager entre les mondes. Leurs vaisseaux m'ont rappelé une flotte entière d'Aquilons, colonisateurs.
Ah, et les Schnorn auraient bien aimé les avoir ceux-là. En tout cas, leur design a été réactualisé à travers des concepts art qu'on a pu dénicher pour vous sur le net. N'hésitez pas à partager vos propres théories en commentaire de la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi liker et partager cette histoire à votre oncle ou à votre tante si vous avez apprécié notre travail. On donnera aussi un code d'AP de votre choix sur Arena à un commentaire tiré au hasard s'il contient le mot-clé « sacrificiel ».
Et d'ici la prochaine fois, bon voyage jusqu'aux pièces sinistres du manoir Karloff.